Eh bien, revoilà Zoom & Co. Hein, pour sa première émission de l'année 2026. Hein. Une émission qui a dû vous manquer, mais une émission qui va vous être proposée tous les 15 jours pour satisfaire votre soif de cinéma. Hein. Une émission donc, qui est consacrée, vous l'avez compris, au cinéma, et en particulier au cinéma de Millau. Avec, comme d'habitude...
Annick, du club ciné MJC.
Bonjour. Muriel, donc du cinéma de Millau. Et bonjour à vous.
Avec un invité surprise aujourd'hui.
Pierre-Emmanuel, Aveyron Cinéma, merci de l'invitation.
Ah ben je t'en prie, hein. C'est avec plaisir. Bon, et puis Didier, un peu à la production, et puis qui fait partie aussi du Club Ciné, et puis qui est là pour essayer de soutenir cette activité si importante. Donc je crois que Muriel voudrait commencer... On est tous d'accord avec elle, pour un bilan 2025 du cinéma.
Ça fait un petit
cinéma.
Peu dictateur, dictatrice.
Non, mais
c'est intéressant.
Mais oui. Je pense, bon, on n'osait que... pas trop, parce que de temps en temps, on entend que la fréquentation pourrait être meilleure, mais je pense que c'est le moment de parler de Cinoche quand même.
Ben oui, c'est le moment de parler cinéma, et puisqu'on est encore en janvier, de faire un petit bilan de l'année passée. Puisqu'après, nous allons parler tous des films qui nous ont le plus marqués. Donc, une année difficile. Une année 2025 très difficile pour le cinéma, en général. Alors, c'est assez marrant parce qu'en fait, il y a cette espèce de fracture qui est le Covid. Et depuis ce moment-là, tous les acteurs... du cinéma en général, scrute chaque année et analyse chaque année pour voir si ce que va donner cet après Covid, ce changement de pratique aussi qu'ont pu avoir toutes les personnes durant cette période, notamment avec la multiplication des plateformes, etc. Donc il y avait 2024 a été une année d'espoir parce
ouais,
que excellente année pour le cinéma de Millau qui était bien au-delà de la moyenne nationale. Et là, 2025, dur, très dur. Nous sommes à moins 13% sur la moyenne nationale et moins 20% au cinéma de Millau, ce qui n'est pas terrible, effectivement. Hein, ça a été une année très difficile pour le cinéma de Millau. Alors, du coup, on peut se dire que tout est remis en question chaque année, en fait. Hein. Est-ce que 2025 est vraiment une mauvaise année ou est-ce que 2025 va être ce que vont être les années qui vont suivre? Ça, on ne sait pas trop. Par contre, voilà, ça continue. Alors, des films moindres peut-être, qui ont moins attiré, il y a eu ça, beaucoup ont avancé ça. Que veulent les spectateurs aujourd'hui? Ça aussi, en fait, c'est quels sont les changements du grand spectacle, du rire, que veulent les spectateurs. Voilà, ça, je crois que c'est ce où on doit s'interroger, enfin, surtout les personnes qui font des films populaires qui ont pas mal marché quand même, comme Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, ou La femme la plus riche du monde, des films moins grand public qui ont très bien marché aussi, hein, Cyrade, The Brutalist, La Palme d'Or, Un simple accident, qui a très très bien marché aussi, et en fait, tout s'est joué sur les deux dernières semaines de 2025, Avatar, Zootopie, La femme de ménage, donc du film très, très grand public et très familial.
C'est des films qui ont permis de rattraper le retard ou
ah
pas,
ben non, oui. Rattraper enfin, non.
Mais disons que sans ces films...
c'était bien, bien pire, hein, ouais, tout à fait.
Et même ces films ont eu moins de succès que...
Ah, ils ont eu beaucoup de... Non, ils ont eu beaucoup de succès. Beaucoup de succès. Enfin, ça a été vraiment de très très bonnes entrées. Très bonnes entrées. Zootopie, par exemple. Zootopie, excellent. Excellent et ça fonctionne encore. Mais ça n'a pas permis de récupérer le retard. Donc là, on a tous les yeux rivés sur 2026. Bon. Et visiblement, d'après les pronostics, qui serait une meilleure année. Avec des films très attendus. Voilà. Comme... le Marsupilami.
Ah oui, ça c'est sûr qu'on l'attend.
Non, mais on est là-dedans, on est là-dedans. Hein. L'Odyssée de Christopher Nolan, Dune 3, Astérix à la fin de l'année, voilà. Bon, bah, et après, les surprises habituelles.
Oui, c'est ça. Hein.
C'est
fait,
ça, en fait.
Il y a eu des effets de surprise.
Il y a des effets de surprise.
Et alors, parmi les films là, que vous avez beaucoup aimés cette année, les uns et les autres, il y a eu des effets de surprise, le film que vous avez choisi de nous présenter, là. C'est une surprise, ça répond un petit peu à ce que dit Muriel.
Alors, le film que moi, pour moi, c'était le coup de cœur de 2025, c'était Mon gâteau préféré, qui est un film qui nous vient d'Iran. Donc, les réalisatrices sont Mariam Mogadam et Behtash Sanaia, on va y arriver. Et c'est l'histoire d'une femme à Téhéran, c'est une veuve de 70 ans, qui est décidée de vivre seule, de manière indépendante, ce qui va donc à l'encontre du contexte traditionnel et religieux de la société iranienne. Et c'est un film extrêmement touchant, extrêmement émouvant. Il y a des moments amusants, mais derrière, on voit l'intelligence des réalisatrices qui nous montrent par petits bouts la terreur qui règne en fait envers les femmes qui essaient d'outrepasser un peu toutes ces règles rigoureuses et tout ça. Et par moments, on voit la police des mœurs qui apparaît de temps en temps. Et c'est vraiment cette manière intelligente de montrer la vie de tous les jours de ces femmes iraniennes. Et la dernière, je vais juste parler de le dernier plan, sans dévoiler l'histoire ou le plan, qui est terrorisant, vraiment. Et ce film, par moments, il vous glace le sang, alors que c'est une histoire toute douce, donc de cette femme de 70 ans, qui tombe amoureuse de ce conducteur de taxi, qui essaie de revivre une vie un peu normale, puisqu'elle est très solitaire. Et non seulement c'est touchant, mais c'est vraiment... On nous montre la vie de quelqu'un, une femme qui habite à Téhéran. À savoir que les deux réalisatrices donc, ont été emprisonnées pendant 6 mois après ce film. Donc c'est un film que je recommande parce qu'il est très beau. Il est un peu passé au-dessous des radars.
Ouais,
parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais il a été nominé pour le César du meilleur film étranger en 2026. Donc on va voir. Il a reçu pas mal de prix aussi. Mais c'est à voir parce qu'il est non seulement touchant et attendrissant et amusant par moments, et en même temps, il nous montre vraiment la condition féminine en Iran, mais par petites touches, sans en faire trop. Et ça, c'est très beau.
Mais il mériterait une seconde chance? Parce que je ne sais pas qui l'a vu dans
vraiment.
Le studio.
Moi, je l'ai vu. J'avais beaucoup aimé aussi.
Ouais. Vraiment.
Il avait eu un succès.
Oui. Enfin, ce qu'on a amené à ce film-là, l'ont beaucoup aimé.
Oui,
voilà.
Non, mais
c'est pas un film... Parce que si tu veux, quand tu entends que c'est l'histoire d'une veuve de 70 ans qui va un peu draguer parce qu'elle est un peu solitaire, qui va draguer un chauffeur de taxi, et tu te dis, bon, voilà, histoire un peu commune, et tu vois pas trop l'intérêt de ce film. Mais en fait, derrière, l'intelligence, comme je dis encore, de ces réalisatrices, c'est de montrer la vie d'une Iranienne tout à fait normale, lambda, avec les problèmes qui se posent avec la police des mœurs. Donc c'est vraiment très beau ce film. Moi je le recommande vraiment, allez le voir si vous ne l'avez pas vu, ou louez-le, ou allez-y. Voilà.
Non, mais bon, eh ben, j'ai hâte de le revoir et tu sais ce qui te reste à faire. Et toi Muriel, alors, le meilleur film, le meilleur ou le film qui te... que tu as préféré, etc., etc.
J'en ai pris deux, mais je ne vais pas...
Ah, mais tu peux en prendre...
Je peux en prendre deux.
Mais je ne sais pas, on va se réunir là. Bon. Allez, vas-y,
non, mais
n'hésite pas.
Très, très vite, parce que je me suis dit que j'allais laisser la parole au taiseux. J'ai choisi des films pas très bavards. Les deux, et ils m'ont plu tous les deux. Il y en a un qui était au début d'année et l'autre totalement à la fin. Le premier, c'est Black Dog, un film chinois de Yu Guang. Et j'ai vraiment, vraiment eu un gros coup de cœur pour ce film qui raconte l'histoire de Lang qui revient dans son village aux portes du désert de Gobi. Et il va travailler pour une espèce de police qui est chargée de capturer les chiens errants. Il y a énormément de chiens errants. Et il va se lier d'amitié avec un des chiens. Et c'est vraiment l'histoire de ces deux âmes solitaires qui se réunissent. Le personnage principal ne dit quasiment rien de tout le film, même quand il est au téléphone, ce qui est assez extraordinaire. Et le premier plan est juste magnifique. Moi, dès le premier plan, j'étais captée avec tous ces chiens qui courent comme ça dans le désert.
Très belles images.
Les images sont sublimes. C'est vraiment l'homme et la nature aussi. C'est vraiment l'homme dans son élément et comment il a voulu filmer le réalisateur la Chine rurale. Et voilà, c'est cette adaptation de l'homme et des laissés pour compte un peu dans cette nature. Voilà, moi ça vraiment j'ai beaucoup aimé. Et le deuxième, c'est Rebuilding.
Rebuilding
de Max Welker Silverman, oui. Donc américain, film indépendant américain, fait avec des tout petits budgets. Et alors là, on est plutôt, c'est plutôt le cow-boy. Mais alors, le cow-boy, il n'a plus rien de viril et de très masculiniste, on va dire. C'est le cow-boy qui plus mélancolique. Il a perdu son ranch. On est dans les grands incendies, de grands incendies. Donc, lui a perdu son ranch. Il se retrouve avec une espèce de communauté. Ils vivent tous dans des caravanes. Et c'est comment tous ces gens vont se reconstruire peu à peu. Et lui aussi, ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Hein. C'est quelqu'un d'un peu de taiseux aussi.
Très attachant.
Il est incroyablement... Ouais. C'est Josh O'Connor qui est magnifique dans ce rôle. Ouais. Il va retrouver un peu sa fille aussi, de laquelle il s'était éloigné. Et tous ces personnages vont se reconstruire. Et c'est aussi, là également, un film de l'homme qui s'adapte à ce qu'il se passe avec la nature. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ces deux films. Et
ce film m'a fait penser un peu à un mélange de Rider, puisque...
Et de Nomadland.
Et Nomadland, exactement. J'allais dire. Et c'était un peu ce mélange-là de ces hommes qui ont perdu leur raison d'être, en fait, de Rider, puisqu'ils ne peuvent plus faire des rodéos, et Nomadland avec...
tous ces gens.
Tous ces gens-là qui vivent dans les communautés. Ouais. Donc c'est un film qui est très, très doux, qui est très attachant aussi. C'est une surprise, ce film.
Ah, c'est une surprise. Tout et le fait. Réalisateur, en fait, il a filmé le monde tel qu'il aimerait qu'il soit dans les rapports humains. Parce que les gens sont d'une incroyable bienveillance et gentillesse, tous les uns avec les autres. C'est très beau.
Bon, voilà. De super films. Tu qualifierais ces films pour cinéphiles? Non, pas du tout, en fait.
Pas tant que ça.
Non.
Pas Rebuilding, non.
Ils ont rencontré leur public.
Black Dog, oui, vraiment, vraiment. Et Rebuilding, pas trop, mais je l'ai pas passé assez longtemps. J'ai pas eu le temps.
Je crois qu'il est passé qu'une semaine.
C'est la difficulté.
Mais par contre, c'était faisait partie d'un des films surprise.
Et ça,
ils avaient adoré les spectateurs.
Ça, j'imagine.
Ouais.
Alors maintenant, autour de quelqu'un qui est moins cinéphile, je vais parler de moi.
Je vais laisser
Pierre Emmanuel en beauté. J'espère pour lui. Moi j'avais envie de parler du Brutaliste.
Alors
c'est pas du tout le même type de film d'ailleurs, parce que son nom l'indique, c'est un petit peu plus brutal que les trois films que vous venez d'évoquer, mais moi je l'ai beaucoup aimé. Alors il y a plein de raisons, donc je vais pas trop développer, mais bon, je ne sais pas si tout le monde connaît ce film. Non, je ne crois pas. Hein. C'est une histoire sur près de 30 ans, ou une histoire d'un architecte qui sort d'un camp de concentration et qui immigre aux États-Unis et qui va découvrir la société, ce qu'il arrive à un artiste dans cette société américaine. Une société, d'ailleurs, qui pourrait bigrement ressembler à la nôtre. Alors, ce qui est intéressant pour moi, c'est que quand on parle d'artiste, c'est rarement un architecte. Donc ça m'a intéressé. Et alors, parler évidemment de l'architecture brutaliste, bon, c'est forcément une métaphore de ce qu'on est. Alors, c'est un film particulier. Bon, il a été tourné par Brady Corbett, un cinéaste moyennement connu, avec un petit budget qu'on sent pas du tout, parce que le thème, il est immense. Bon, c'est un film très long avec un entracte qui est obligatoire, puisqu'il est inclus dans le film. Donc, il nous rappelle des souvenirs. Le format de l'image est particulier. Je pense que c'est lié au sujet de l'architecture. Donc, c'est aussi un film qui parle sur l'antisémitisme et l'architecture. D'ailleurs, quand on discute avec les uns et les autres. Tantôt, on parle d'architecture, tantôt, on parle malheureusement d'antisémitisme. Donc, une double lecture et un sujet finalement inhabituel. Et puis, un acteur fantastique, Adrien Brody. Voilà, ça m'a beaucoup plu.
Tu conseilles d'aller le voir, en fait, si on ne l'a pas vu, d'aller le voir.
Ben, je le conseille parce qu'on peut le regarder différemment. Hein. On apprend aussi beaucoup sur l'architecture, mais c'est certainement pas que ça. Hein. Mm-hmm. Bon, loin de là. Alors, quel est le film que, Pierre-Emmanuel, que tu as préféré parmi tes films préférés?
Alors, cette année, L'agent secret de Kleber Mendoza Filho, cinéaste brésilien, cinéaste dont c'est le 6e film et le 4e long métrage de fiction. Et L'agent secret se déroule dans les années 70, pendant la dictature militaire brésilienne. C'est l'histoire d'un universitaire dont la vie est menacée après qu'il se soit opposé à un affairiste qui voulait privatiser les recherches de l'université. Et c'est un film qui est totalement prenant par la vitalité qui le mène de bout en bout pendant 2h40 qu'on ne voit pas passer. Et ce qui est intéressant, c'est l'aisance que peut avoir Mendoza Filho dans la mise en scène, qui lui permet d'avoir totalement foi en son récit, dans la manière dont il filme. On a l'impression qu'il a simplement à suivre la linéarité, ou plutôt la scansion de son récit, pour trouver la meilleure manière de filmer, de rythmer son film. Il est totalement habité par le récit, dans la mesure où, en termes de mise en scène, il semble en pleine possession de ses moyens. C'est vraiment un cinéaste du présent.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que cette aisance lui permet aussi d'injecter des éléments totalement hétérogène, et hétérogène notamment au réalisme. On pourra dire comment les années 70 sont très bien, j'ai même pas envie de dire reconstituées, j'ai presque envie de dire revécues, au sens où elles respirent, où c'est palpable. Mais ça lui permet également d'injecter des éléments hétérogènes, comme une scène fantastique, gore, disons-le, avec une jambe d'un personnage mutilé par un requin et qui auparavant a été tué par les policiers corrompus, une jambe qui s'attaque soudainement, voilà, qui se balade toute seule et qui s'attaque soudainement à des personnes dans un jardin public.
Ça, c'est une légende apparemment.
C'est une légende.
Cette lampe, tout à fait.
Ah, voilà. Cette jambe, ça fait effectivement penser aussi à des parenthèses un peu légendaires, comme on en a dans les films du Thaïlandais Apichatpong Werazethakul, qui avait fait notamment Oncle Bunmi. Et on a comme ça des séquences qui sont un peu oniriques et dont on voit ensuite qu'elles sont issues de légendes très profondes et très intégrées par le pays dont le cinéaste est originaire.
Ouais. Il y a des séquences d'action aussi.
Il y a des séquences.
Ça, parce que je l'ai vu il y a pas très longtemps.
Il y a une grande vitalité dans la manière dont c'est filmé, et les séquences d'action sont.
C'est toujours aussi bien tourné, quelle que soit les.
Une grande aisance.
Non, c'est moi je suis assez d'accord avec toi, mais bon. Hein, on peut conseiller ce film. Hein. Et tu sais pourquoi il s'appelle L'agent secret ?
Alors, c'est très intéressant, parce qu'il n'y a pas
tout le temps pendant
d'agent
le film,
secret. On peut même le chercher tout au long du film. Il semble que ce soit plutôt un titre d'ambiance, de climat, davantage qu'un titre lié à la narration en elle-même.
C'est pour nous préparer.
Voilà. Ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est la manière dont il nous dit que les années 70 sont à la fois très proche, au sens où comme je disais, on les revit, on les ressent, et en même temps très éloigné, puisqu'on a en perspective des étudiantes qui écoutent les enregistrements qu'avait laissé l'universitaire. Elles les écoutent à partir de cassettes audio, ces cassettes.
C'est le devoir de mémoire, justement, je pense, qu'il veut voilà, montrer aussi dans ce film.
Exactement. Et on a parallèlement un enfant qui a un peu connu son père et qui, une quarantaine d'années plus tard,
ne se rappelle de
peut
rien.
Quasiment dire qu'il ne se rappelle pas grand-chose.
Tout à fait.
Il y a beaucoup de musique. Hein. Il y a beaucoup de musique. Hein. Il l'utilise, hein, je crois, pendant le film. D'ailleurs, on va écouter le premier morceau qui passe dans le film, là, quand on reprend son souffle. On a l'impression d'être retourné dans un film californien. Tout va bien se passer, la voiture est jaune.
Surtout après la première scène qui est assez bouleversante, assez hard, oui.
Donc, on vous propose If You Leave Me Now, une vieille chanson de Chicago. Bon, voilà le moment que vous attendez tous, hein, c'est la programmation de la quinzaine, les meilleurs films à venir. On va commencer par notre club ciné de la MJC.
Oui, donc le lundi 9 février, donc à 20h, le club ciné MJC vous propose un film de 1939 qui s'appelle La fin du jour de Julien Duvivier, qui sera présenté par Pierre-Emmanuel Paré d'Aveyron Cinéma. Donc, près de Tarascon, l'abbaye de Saint-Jean-de-la-Rivière abrite une institution charitable pour les vieux comédiens désargentés. Alors qu'une menace de fermeture plane sur la maison de retraite, Raphaël Sinclair, ancienne gloire du théâtre français, un séditeur cynique et mythomane, vient s'y installer à son tour. Et sa présence ranime bientôt certaines rancœurs parmi les pensionnaires. Donc, ce film est un très bel hommage au théâtre et à ses comédiens. Et c'est également une occasion de revoir deux immenses comédiens, Louis Jouvet et Michel Simon. Donc, je vais laisser Pierre-Emmanuel qui va nous faire le plaisir et l'honneur de présenter le film donc, le 9 février, de nous parler un petit peu de ce film, La fin du jour, donc de Duvivier.
D'abord en précisant que c'est un film qui intervient à la fin de la grande décennie de Julien Duvivier. Julien Duvivier, c'est vraiment un cinéaste des années 30, avant tout, même si en réalité il a commencé à l'époque du muet pour terminer à la fin des années 60. Et cette grande décennie des années 30, elle est marquée par des films comme La tête d'un homme, Pépé le Moko, La belle équipe, des films, La bandera, des films vraiment importants qui en faisaient un des grands cinéastes de ce qu'on a appelé le réalisme poétique.
Le petit monde à ce moment-là.
C'est un peu après, je crois.
Il manquait celui-là.
Ouais. C'est un peu après, mais c'est intéressant que tu le cites, parce qu'en réalité, Julien Duvivier est un cinéaste qui est méconnu, très méconnu, c'est vraiment un grand méconnu du cinéma français, en raison peut-être de l'hétérogénéité de son œuvre. C'est un cinéaste qu'il faut vraiment redécouvrir, dans la mesure où il a réellement un style, une approche très inspirée par l'expressionnisme allemand notamment, et également une certaine habileté d'artisan qui a pu lui être reprochée. On a pu dire c'est juste un faiseur entre guillemets. Non, en réalité, quand on redécouvre ses films, on voit tout son plaisir de cinéaste et toute la continuité qu'il peut y avoir entre ces films, au-delà du côté a priori disparate de son œuvre.
Bon, on va voir ça attentivement. Moi, je vais découvrir, hein, je dois l'avouer.
C'est un de ses meilleurs films, La fin du jour. De toute évidence, c'est un de ses meilleurs films.
Le noir et blanc est absolument magnifique, les acteurs sont magnifiques, l'histoire aussi. Donc, venez voir, donc c'est le 9 février à 20h.
Bon, et puis je crois qu'il y a même d'autres films. Hein. pendant cette quinzaine.
Un tout petit
Muriel
peu.
Qui hausse les épaules et lui dit
«
Oh,
franchement. » Un tout petit peu. Oui, si.
Il faut que j'ai du monde au cinéma.
Il y a là, je compte sur vous pour 2026. Hein. On ne peut pas rester sur une année comme ça. Non, alors là, à partir de, du 28, hein, on a toute une semaine, ça s'appelle les saisons Hanabi. Et ça met à l'honneur le cinéma japonais. Et vous n'aurez que des avant-premières. C'est un film par jour, soit à 18h30, soit à 20h30. Voilà, il faut regarder le programme. Et ces films, ils ont pour particularité d'un petit peu se poser la question de comment être soi dans la société japonaise. Et donc, ils dialoguent tous les uns avec les autres, comme ça, où on voit tomber les masques un petit peu dans certains films, les personnalités se fissurer, et voilà, c'est un petit peu le fil conducteur là, de saisons Hanabi.
L'année dernière, c'était très bien. On peut aller presque au hasard. Hein,
franchement,
voir les
films. Je crois que voilà, si vous êtes disponible un petit moment, vous pouvez venir les yeux fermés. Et ça m'amène à vous dire
ce que je pense. Que je te voyais arriver.
Le 3 février à 20h30, je vous attends pour
un film
surprise
wow.
du mois.
Tu ne peux pas nous en dire deux mots. Je sais que non, d'ailleurs.
Mais... Ah ben non.
Bon, mais
non,
il est super.
Ouais, il est chouette. Ouais. Ouais, franchement, il est bien.
Je vois le sourire de Muriel.
Non, il est bien.
Ouais, de quelle nationalité ? Est-ce que tu peux nous dire ça ?
Non, mais ce n'est pas un film français, tu peux venir. Si c'était la question.
C'est pas une coproduction. Non, mais c'est la question. Hein. D'ailleurs, vous avez remarqué que personne n'a choisi de film français, il me semble. C'est pas l'envie qui m'en aurait manqué tout à l'heure.
Ah oui, bon. C'est vrai. C'est vrai.
Et alors, il y a bien d'autres choses, je pense.
Alors, du coup, on va parler... Ah, peut-être j'en profite pour parler du cinéma espagnol. Et parce que, cette fois-ci, il nous propose une
cette
petite curiosité.
Un bon film. Non, je plaisante là.
Non, mais parce que ça peut diviser. C'est un film qui peut diviser, qui s'appelle « Tardes de Soledad », qui est de Albert Serra, et c'est un film sur la corrida. C'est pour ça que je dis ça, voilà, parce que ça peut diviser. Mais par contre, ceux qui l'ont vu ont dit que c'était absolument magnifique.
Classé deuxième par le Quai du cinéma les lecteurs.
Voilà.
Ah, moi, je suis ravie que ça passe.
Hein. Eh bien voilà, ça passe, ça a été choisi par le Club Ciné. Donc moi aussi, je suis ravie que ça passe, parce que je ne l'avais pas programmé. Le Club Ciné espagnol, effectivement.
Bon, tu redis la date ?
C'est le 2 et le 3 février.
Ouais. C'est le cinéaste qui avait réalisé Pacifiction.
Ah, qui est extraordinaire.
Tout à fait.
Ah là là, avec l'acteur français que j'avais adoré.
Benoît Magimel.
Ah, Benoît Magimel, il avait un rôle là, de politique. Enfin, oui, fantastique comme film. Bon.
Bah voilà, donc...
Ah bah tu vois.
Non, ça c'est très bien. Je suis très contente. Je suis très contente de leur choix. Et ensuite, pour ce qui est des sorties classiques, on va dire... moi, je suis un petit peu curieuse de découvrir Gourou. Voilà. Qui est,
Annick aussi. C'est un film français.
Ah, c'est bien. Avec Pierre Niney, il est gentil, Pierre Niney. Et oui, parce qu'en fait, le thème, j'avoue que le thème de m'intrigue, c'est quelque chose qui n'a pas été tellement traité et sur ces, j'allais dire manipulateurs, mais c'est pas ça.
C'est sur la manipulation.
C'est un peu
film,
sur la manipulation, oui.
Ouais, c'est sûr.
Mais voilà, ces personnes qui prône le développement personnel de quand tu veux, tu peux, que les choses sont en toi et tu as toutes les clés.
Il suffit de traverser la rue,
exactement, qui sont très culpabilisantes, hein, toutes ces choses, finalement. Et voilà, donc ça peut être intéressant. Moi, c'est...
Tu le passes deux semaines, je crois.
Non, plus que ça, sans
plus
doute.
Plus que ça, même.
La sortie nationale, je suis obligée de les passer plus que ça.
Et c'est autorisé même en période électorale.
C'est autorisé. Et après, pour l'histoire, parce que je trouve que c'est intéressant, vous pouvez venir voir Fursi. Le film n'est pas un grand film. Il a quelques défauts. Hein. Il a quelques défauts.
Ah oui.
Ouais. On se sent pas. Voilà. Je pense que les personnages sont pas assez incarnés. Enfin voilà. Mais par contre, pour l'histoire vraie. vraie de cette esclave, Furcy, qui, on est en 1817 à l'île de la Réunion, et il découvre qu'en fait, sa mère, elle a été faite libre par son ancien maître, et que lui est né en esclave libre, finalement. Et donc, c'est tout le procès, c'est un film de procès, où aussi, son avocat se bat pour qu'il retrouve sa liberté. Et donc, c'est assez intéressant, oui. C'est assez intéressant. Ah, j'entends le générique.
Non, mais il n'y a pas de problème. Tu peux même parler d'Hamnet.
Et Hamnet,
après, si tu veux.
Voilà. Et Hamnet. Voilà, là, c'est pareil. Je pense que même que c'est Chloé Zhao. Ouais. Le film a des critiques mitigées, mais je pense que c'est intéressant. Et là aussi, on est sur de l'histoire vraie. Oui ou non, parce que c'est sur Shakespeare. Et Shakespeare, on n'en connaît pas grand-chose non plus. Mais plus précisément, c'est sur sa femme, là.
Oui.
Et voilà. C'est sur la femme de Shakespeare et ses enfants. Et l'histoire... Moi, je n'ai pas vu le film, mais j'ai lu le livre dont il est tiré et que j'avais vraiment beaucoup aimé.
Donc, et moi, voilà. Je vois, là, parce qu'on est tous en train... On est très concentrés. Il n'y a pas de... On n'est pas filmé, mais devant le programme. Et je vois qu'il y a aussi le match du Kremlin.
Mmh.
Bon, ça, je pense que ça attirera du monde au cinéma, j'espère.
Alors, oui, pour l'instant, moins que l'affaire Bojarski.
Bon, chacun ses goûts. Hein. Il y a des faux monnayeurs d'un côté.
C'est ça.
Et de l'autre côté, je ne sais pas quoi.
Mais intéressant aussi l'affaire Bojarski, histoire vraie aussi.
Oui,
donc c'est intéressant, les gens.
Bon, y a plein de films quand même.
Oui.
Il y a vraiment de bonnes raisons, je pense, d'aller au cinéma.
Début d'année est très bonne. Là, pour l'instant, les gens sont là et dans les salles de cinéma. C'est bien.
À noter aussi le nouveau film de Kelly Richard qui s'appelle The Mastermind, qui est aussi extrêmement intéressant parce que c'est l'histoire d'un cambriolage et ce qui se passe après un cambriolage raté. Donc c'est vraiment à voir pour ceux qui aiment Kelly Richard et qui ont vu ces films qu'on a présentés souvent au Club Ciné, First Cow, il y en a énormément de films, donc c'est à voir aussi, je recommande. Voilà.
Bon. Mais je ne sais pas quand est-ce que je l'aurai là,
bon.
Parce que toi tu as vu
ça sera la prochaine fois.
Non, mais c'était l'avant-première.
Oui.
Une
fois.
Mais justement, c'est une bonne transition parce que là, on va vous dire au revoir et on va vous donner rendez-vous dans 15 jours où là, on pourra donner des dates pour un mastermind, j'en suis sûr.
Voilà.
Hein?
Au revoir à tous.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Et encore merci pour ta présence.
Et à très bientôt au cinéma.
Ah oui.
Bye bye. Station KRML in quaint little Carmel by the sea, and we're right next door to Magnificent Monterey, home of the annual Jazz Festival.